peut-être une question qui pourrait concerner l'ensemble des intervenants pour prolonger.
Oui, s'il te plaît, juste avant de rentrer dans la phase un peu plus globale, de laisser la parole quand même à Catherine Boutin. Je veux dire, je suis désolée, Catherine, de t'avoir coupé un peu brutalement et d'avoir pu jouer un peu la carte du temps. Dans les questions qui t'ont été posées, notamment, il y en a une ou l'autre qui me paraissent très intéressantes, qui sont sur par rapport à ce qui a été réalisé sur les trois ZRV. Au niveau du suivi opérationnel, qu'est-ce qui pourrait être généralisé pour le suivi de la performance sur d'autres sites?
Je vais tâcher. Donc, évidemment, on ne peut pas généraliser. Enfin, il n'y a pas de. On ne peut pas faire ce qu'on a fait sur l'ensemble du site, c'est évident. Pour avoir une vision assez fine des écoulements et entre autres des écoulements souterrains, il est vraiment pertinent de faire des suivis de débit amont aval. Pourquoi ? Parce que ces suivis de débit, c'est pas forcément la différence entre les deux, mais c'est les évolutions. Et entre autres, si on se rend compte que le débit aval est particulièrement important ou particulièrement différent d'un jour à l'autre, ça veut dire qu'il y a des pertes ou des résurgences. Donc ça, ça peut être un bon indicateur et ça peut être aussi un indicateur d'un éventuel colmatage momentané du système. Donc là, les suivis de débit sont vraiment… mettre du matériel pour suivre les débits, c'est important, c'est utile. Il est utile aussi d'exploiter les végétaux. Donc sur les végétaux flottants, une couverture complète, on a vu des couvertures complètes de lentilles d'eau ou d'azolla. Ça, c'est une catastrophe, je le dis un peu, c'est une catastrophe pour le milieu parce qu'en fait, ces couvertures de végétaux font un frein, est un frein à la pénétration des ultraviolets, qui est un frein au développement de la photosynthèse forcément et donc à l'oxygénation du milieu. Donc, on arrive à des systèmes anaérobies et tous les rejets en rivière doivent se faire dans des conditions aérobies avec de l'oxygène. Donc, il faut absolument enlever les végétaux flottants. Il faut aussi également enlever les végétaux, couper les végétaux enracinés. Pourquoi ? Il peut y avoir deux raisons. Une raison, c'est qu'on a un apport, les végétaux enracinés, effectivement, se nourrissent d'un peu d'azote et de phosphore du milieu. Mais ils se nourrissent aussi de carbone biogénique. Et donc, quand ils se flétrissent, on a un apport de carbone et de matière organique supplémentaire à traiter par le milieu. Et aussi, on s'est rendu compte, quand on a regardé au niveau de la bactériologie, on a un ombrage par les végétaux, par les feuilles des végétaux, qui fait qu'aujourd'hui, on a des résultats améliorés sur la bactériologie en hiver qu'en été. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le végétal fait un ombrage. Et donc, du coup, voilà, le fait de couper les végétaux est important. L'enlèvement des dépôts est à prévoir. Je vous ai un tout petit peu dit qu'effectivement, on avait de la décantation, même si on a des ouvrages qui sont relativement petits avec des temps de séjour modestes, on arrive à décanter. Si on arrive à décanter, on arrive à décanter tous les polluants qui sont liés aux matières en suspension. Ces polluants sont variés, donc ça peut être effectivement des formes azotées, ça peut être des micropolluants, ça peut être des métaux, mais on les retrouve donc dans ces dépôts qui sont les boues. Donc, si on veut éviter un relargage selon les différents mécanismes, il faut les enlever. Alors, est-ce que c'est tous les ans? Est-ce que c'est tous les deux ans? Quand il y a un épisode de dysfonctionnement de la station d'épuration amont, on suggère de le faire dans les 6 mois qui suivent le dysfonctionnement. On a suggéré d'avoir des hauteurs de dépôt qui soient de l'ordre de 10 à 15 cm. Donc, tout dépend des lames d'eau qu'on met dans le système. Après, je pense que c'est des éléments, il faut suivre le colmatage. Donc, une autre, dans l'entretien, mais qui va avec la conception, on milite pour la mise en place du système alterné sur deux plateaux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il semblerait qu'il se passe davantage de choses dans le sol. Et pour qu'on utilise le sol au mieux, il faut absolument que l'eau puisse y pénétrer. Donc, ça veut dire qu'on gère le colmatage. Pour gérer le colmatage, l'alternance est une bonne solution. Donc, je
bon,
crois que
ça
j'ai
veut
dit.
dire que, je veux dire, vous avez déjà donné un certain nombre de propositions, de prescriptions, et que ceux qui voudraient s'y lancer pourraient s'appuyer là-dessus, mais devraient adapter aussi à leur cas par rapport à suivre les différents paramètres que tu cites.
Ah ben c'est sûr. Enfin là, on n'a pas la pertinence d'avoir fait une. Il n'existe pas une ZRV type, mais il y a quelques consignes qui sont susceptibles de pouvoir être produites. Mais c'est vrai que aujourd'hui, donc plus on a plutôt privilégié les dispositifs de type fossé que de type bassin, justement pour éviter le développement des végétaux flottants. Mais voilà, donc dans le document qui est disponible en ligne, j'en profite pour le dire, ou qui est disponible en version papier si vous me le demandez, du fait du Covid, on a tout un stock et on serait ravis de pouvoir vous en faire bénéficier. Donc n'hésitez pas à me le demander si vous voulez. Donc on a des versions papier
Merci,
disponibles.
merci.
On a souvent
Merci.
privilégié les dispositifs fossés. Mais ça dépend des situations. Et
OK.
autrement, sur le thème de l'entretien, juste, mais il y avait une question autour du suivi de la faune et de la flore. Donc, on n'a pas fait de suivi de la faune. Par contre, on a fait le suivi de la flore. Et entre autres, sur l'un des sites, qui est celui de Marguerite, il avait été proposé probablement, alors je ne sais plus le nombre exact, une cinquantaine d'espèces à l'origine à la plantation. Il faut savoir que la végétation fait que ce qu'elle veut. Et donc, au bout de 3 ans, on n'avait plus qu'une dizaine d'espèces. Et donc, la biodiversité d'origine, elle est sur le papier, mais elle ne reste pas. Donc, il a été
Merci
dit.
Catherine pour ces différents éléments, pour le guide que tu viens de citer, et puis que dans ton PowerPoint aussi, il y a des choses très riches qui permettront d'apporter les réponses qu'on n'a pas pu donner oralement. Du coup,
Parfait.
Yves, je te redonne la parole.
Oui, alors il me semble qu'une question qui est revenue aussi sur pour les quatre interventions, enfin qui pourrait les concerner, c'est la question alors, de l'implication de la population. Alors on l'a un peu abordé dans le cas de la vallée du Gouache déjà. Il y avait quelques questions qui concernaient ce qui était fait à Paris. Et en particulier, comment sont choisis les sites où on implante des cours oisifs, hein, comment on choisit les écoles, et comment la population, de manière générale, est impliquée. Et je pense que c'est une question qui peut aussi concerner le choix des techniques pour Fabrice, éventuellement aussi le choix d'implanter une ZRV ou pas pour Catherine. Donc je ne sais pas si Marc ou Youssef, vous pouvez déjà aborder cette question-là du point de
Oui.
vue pertinent.
Oui, mais merci Yves. Alors, sur les cours oasis, si tu veux, ça va dans une approche, l'ambition de cette approche, de généraliser la démarche toutes les écoles de Paris. Mais au départ, c'était une réponse à l'appel d'offres Action urbaine innovante de l'Europe. Et du coup, il y a quatre écoles qui ont été choisies dans une logique de dire qu'il y a une implication forte de la direction de ces écoles et un suivi qui sera un accompagnement relativement bien fait. Et du coup, c'est la CAU, qui est le Conseil de l'environnement, je sais plus, d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Paris, qui a sélectionné en fonction des connaissances qu'ils avaient de ces écoles et des relations qu'ils avaient avec la direction de ces écoles. Mais c'était des pilotes pour commencer. Et à partir de là, l'action urbaine innovante Oasis a été retenue par l'Europe et maintenant la ville de Paris essaye de convaincre l'ensemble des élus. Comme le rappelait Marc dans la présentation, il y a quelques élus qui étaient réticents au départ, des maires d'arrondissement, et qui maintenant sont des ardents
Enthousiaste, un
voilà,
ardent
enthousiastes,
défenseur.
un défenseur. Et deuxième chose, j'ai vu la question dans le chat, c'est sur les questions de la concertation. Alors, la concertation, elle se faisait bien sûr au niveau des arrondissements, des quartiers, mais aussi avec la communauté pédagogique. Alors, ça, c'est clair que toutes les solutions qui ont été proposées étaient très contextuelles, très adaptées à la situation de l'école et à la, aux demandes des enfants, si tu veux. Alors, du coup, la première étape, c'était la concertation avec les enseignants, avec les directions des écoles. Mais dans un deuxième temps, c'était de dire avec les élèves, maintenant, c'est ce qui se passe actuellement, avant le confinement, bien sûr, de dire ben, comment, quel type d'aire de jeu ils veulent avoir, quel type d'activité ils peuvent avoir. Du coup, il y a une réflexion qui se fait sur les thèmes. Est-ce qu'il y a des thématiques qui seront mises en œuvre par école? Voilà. Alors, du coup, c'est dans la logique de la ville de Paris, depuis, sur tous les projets, de faire de la concertation à tout bout de champ.
Merci. Alors, en ce qui concerne les choix des techniques de gestion alternative des eaux pluviales et le choix des critères qui permettent de choisir ces techniques et le choix des critères qui permettent d'évaluer leur performance. Je ne sais pas si Fabrice, tu aurais des choses à rajouter sur l'implication des usagers et des riverains sur ces questions-là.
Bon, je pense que cette question, elle pose la question plus large de l'implication des citoyens dans l'aménagement urbain, hein, parce que c'est vrai que sur la question de la gestion des eaux pluviales, je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça d'associer les citoyens au choix des ouvrages eux-mêmes. Alors, sans doute que c'est une mouvance, la concertation, la participation dans les villes qui peut se faire, mais à mon avis, plus à l'échelle de l'aménagement d'un quartier que de l'ouvrage lui-même. Après, bon, c'est vrai que ce point de la participation et de l'implication des citoyens, je pense qu'il faut déjà qu'il y ait une sensibilisation des citoyens à cette question de la gestion des eaux pluviales, et ça, ce n'est pas forcément évident. Autant sur l'aspect paysager, promenade, végétation, c'est assez facile de les interpeller. Sur la question de l'intérêt, de l'infiltration des eaux pluviales, c'est souvent moins direct, en tout cas en termes de réflexion au niveau des riverains. Toutefois, c'est vrai qu'il peut y avoir des sensibilisations, je pense, qui peuvent être faites. Je sais qu'il y a certaines villes, en particulier aux États-Unis, où il y a des initiatives Adopt an Inlet, donc adopter une bouche d'égout ou adopter un avaloir. Donc, je pense qu'on pourrait avoir ce même genre de pratiques progressivement sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales. On pourrait, comme je le disais tout à l'heure, avoir peut-être des riverains sentinelles qui puissent adopter des noues végétalisées dans leur quartier et qui puissent être finalement des témoins de leur fonctionnement. Donc ça, c'est plutôt une fois que l'ouvrage est construit. Encore une fois, sur le choix lui-même des techniques, je ne suis pas sûr que ça puisse se poser au niveau des citoyens, mais peut-être que d'autres dans l'Assemblée ont d'autres avis sur cette question-là.
Je ne sais pas, Cathy, tout à l'heure, posait la question de la déconnexion des toitures, de façon à ne plus envoyer les eaux pluviales des toitures dans le réseau d'assainissement, mais les infiltrer à la parcelle. Là, c'est des usagers qui sont directement concernés, voire acteurs, puisque c'est à eux de procéder à ces travaux-là.
Oui, après, ça va sans doute avec une incitation aussi financière, une aide financière. Parce que...
Ou une obligation, parfois.
Oui, voire une obligation, oui. Après, c'était un petit peu le principe de la taxe eau pluviale qui avait été imaginée à un moment donné, qui n'a pas pu être mise en place par la suite. Mais oui, une obligation, ce serait plus fort, c'est sûr.
Pour donner un petit élément de réponse par rapport à la déconnexion des toitures aussi, je l'avais lancé plus sur le côté parisien, de savoir s'il y avait des choses qui étaient imaginées. Je veux dire, certaines collectivités ont mis en place des mesures incitatives pour que les privés commencent à faire de la déconnexion, mais effectivement, on est plus sur le budget de la commune, quoi, hein, du coup, dans ce cadre-là. Ma question était plus orientée sur Paris, savoir s'il y avait des cas de déconnexion qui se faisaient.
Pour compléter ce que dit Fabrice, hein, c'est vraiment au niveau de l'aménagement qu'on peut interroger les publics urbains. On ne va pas les interroger sur la partie hydraulique parce que ce n'est pas forcément là où ils seront capables de répondre. Mais c'est vraiment les techniques alternatives, elles sont pensées comme des aménagements qui vont être un parc, qui vont remplir un autre rôle, une autre fonction dans la ville. Et c'est dans le cadre de l'aménagement ou d'un développement de quartier qu'on peut interroger les futurs habitants ou les habitants. Je suis tout à fait d'accord avec Fabrice sur ces aspects-là.
Oui, tout à fait d'accord aussi de notre côté.
Il y aurait éventuellement une question un peu annexe. Comme toutes ces techniques ont des co-bénéfices qui ne sont pas forcément directement liés aux impacts hydrauliques ou sur la gestion des eaux pluviales, mais c'est des co-bénéfices, on va dire, esthétiques, d'abattement des îlots de chaleur, etc. La question se pose en fait de prendre en compte ces critères-là dans la gestion patrimoniale. Je ne sais pas si nos intervenants auraient des réflexions là-dessus.
Oui, sur les corps oasis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans la réponse, c'est qu'il y a des capteurs, un système d'instrumentation qui sera mis en place et les questions de la qualité de l'air localement, elle est très, très considérée d'une manière importante, surtout sur une école qui est dans une zone de pollution importante. Voilà. Alors du coup, ça, c'est effectivement un des objectifs de ce corps oasis, mais ça ne va pas agir sur la pollution globale de Paris, c'est vraiment une pollution locale et la même chose sur les questions pas des îlots de chaleur, mais sur la question des îlots de flécheurs uniquement. C'est pas, même le multiplier ces initiatives ne va pas réduire l'îlot de chaleur à Paris, et ça va créer quelques îlots de fraîcheur au niveau local.
Oui, mais il y a eu tout un tas de capteurs, effectivement, qui ont été mis en place dans les cours d'école Oasis durant l'été, je crois que c'est essentiellement l'été de 2019, ça c'est sûr, justement avec la volonté de mesurer l'efficacité des mesures qui ont été prises. Alors notamment, on parle de béton drainant, mais c'est aussi des bétons, je l'ai dit, dont l'albédo n'est plus le même que celui du bitume, et qui vont ainsi limiter l'effet d'emmagasinement de chaleur. Donc il y a vraiment la volonté qu'à la fois ça renvoie les rayonnements solaires au lieu de le transformer en chaleur, en plus du rôle de la végétalisation que l'on a ajouté. Et il y a eu donc effectivement tout un tas de mesures à l'été 2019 sur ces phénomènes. Bon, disons que après, ce n'est pas des mesures qui sont faites à vitesse de croisière, parce que la végétalisation prévue n'était pas forcément aboutie ou n'était pas forcément. Mais voilà, déjà, c'est vraiment un des éléments majeurs, c'était ça, c'était diminuer la température. À l'origine du succès des cours d'école Oasis, il y avait des expérimentations prévues à la rentrée 2018, et il se trouve qu'il y a eu une canicule en janvier 2018 qui a empêché mené au fait que les enfants ne pouvaient plus aller dans les cours parce que la température c'était des fours. Et donc il y a eu un éveil des consciences par rapport à ça. Il y a vraiment l'objectif majeur numéro un de réduire la température dans les cours d'école et dans l'école adjacente.
Oui, merci.
Là aussi, dans l'action urbaine innovante, ces indicateurs sont demandés tous les 6 mois aux porteurs du projet Corrosis. C'est-à-dire qu'il faut alimenter le tableau de bord de l'Europe par rapport à ces indicateurs quand ils sont disponibles.
Frédéric, je crois que tu avais une question d'ensemble aussi pour nos intervenants.
Oui. Comme les différents intervenants ont abordé différentes solutions fondées sur la nature, moi, je me demandais si on pouvait rapidement faire un tour de chacun pour voir, pour eux, quelles sont les limites actuelles qui bloquent les pratiques de gestion, en fait. Sur quoi il faudrait aller, que ce soit recherche, que ce soit opérationnel, hein, des données, des choses comme ça, pour qu'on puisse vraiment améliorer les pratiques. Alors, peut-être que c'est que budgétaire, mais ce serait intéressant de faire le tour de chacun pour voir qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour améliorer les pratiques de gestion de leurs ouvrages. On peut commencer à l'envers, par Antoine.
Je peux dire aussi que c'est peut-être pas vraiment en cohérence avec la politique.
Oui, vous m'entendez, c'est bon?
Oui.
Oui, alors, grosse question quand même. Il manque pas tant de choses que ça, j'ai envie de dire. Il manque, en tout cas, sur le côté rivière, je dirais qu'il manque de la volonté politique ou du courage politique, peut-être. Dans le sens où, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup d'éléments techniques pour comparer, pour justifier du choix de certaines techniques et qu'on pourrait les mettre en place. Mais, par exemple, le syndicat travaille énormément avec le département sur des travaux de protection de route. Là, on a beaucoup de mal à mettre en œuvre réellement des techniques mixtes ou végétales. Donc, il y a un peu de volonté politique, un peu de sensibilisation aussi à continuer à faire auprès de la population en général, parce que c'est vrai que on a toujours un peu, en tout cas dans les rivières alpines, une croyance que le caillou tient beaucoup mieux que le bout de bois. Voilà, c'est un peu ça, parce qu'on ne se rend pas compte que la partie aérienne, c'est un peu l'iceberg, hein, l'arbre ou l'arbuste, c'est-à-dire qu'il y a plus de racinaires et le maintien est important. Et ça, ce n'est pas visible, c'est difficilement compréhensible, il y a des notions techniques qui ne sont pas très simples. Donc encore certainement des efforts de vulgarisation à faire par les acteurs de terrain, donc nous, hein, par exemple, en tant que syndicat de rivière, donc continuer un peu à vulgariser, à montrer aussi ce qu'on réalise pour que ce qui marche soit vu et que les gens puissent se rendre compte par eux-mêmes des résultats possibles. Voilà, donc je pense qu'il y a un travail de vulgarisation, peut-être encore un travail pour répandre un petit peu ces techniques dans tout type de milieu et tout type de rivière et permettre à tous les bureaux d'études d'y avoir largement accès et de pouvoir eux aussi les proposer. Voilà, donc peut-être encore un petit peu d'effort sur tous les plans.
Et sur l'aspect plus spécifique gestion patrimoniale, qu'est-ce qui manque pour que ce qui marche continue à marcher sur le long terme ?
Alors nous, côté rivière, c'est ce que j'ai essayé un peu d'expliquer, c'est la difficulté de l'entretien. Pour nous, clairement, la difficulté de l'entretien, parce qu'on est dans des grosses problématiques de foncières, c'est-à-dire de savoir qui est le propriétaire, d'une part, des fois, du foncier, mais aussi ensuite, qui est le propriétaire de l'ouvrage, parce que c'est différent, ça peut être différent. Et ensuite, on a une troisième problématique, qui n'est pas forcément le cas partout, mais c'est la prise de compétences, ou en tout cas, l'affrontement de certaines compétences entre une compétence qui est communale de pouvoir de police, de protection des biens et des personnes, mais aussi une compétence qui est plutôt intercommunale sur la GEMAPI, la gestion de la problématique inondation. Donc voilà, donc on a plusieurs compétences qui s'affrontent avec plusieurs échelons de responsabilité de collectivité qui doivent prendre leurs responsabilités. Voilà, donc il y a une clarification à apporter, quoi.
C'est sur le travail d'acteur, beaucoup.
Ouais, je pense.
Catherine, sur les zones de rejet végétalisées, pour que ça continue à marcher, qu'est-ce qui manque pour que ça, qu'on puisse vraiment les entretenir sur le long terme ? Oh, faut que tu mettes ton micro, je pense que tu n'as pas...
Ouais. Oui, tu as raison, pardon. Là, vous m'entendez ?
Oui.
Ouais. Du coup, en fait, donc, je vous ai dit, la ZRV, elle est dans l'enceinte de la station d'épuration. Donc, elle est généralement, bien qu'il y ait des cas particuliers, exploitée par le personnel de la station d'épuration, qui, lorsque ce sont des gros ouvrages, ne sont pas du tout préparés à gérer des ouvrages de façon jardinage, tel qu'il faudrait le faire en ZRV. Donc ça fait partie des premiers... Alors, il faut une double compétence, une double sensibilité. L'autre souci, c'est que la station d'épuration, la qualité du rejet est à l'aval de la station d'épuration. Et donc, les exigences portent sur l'amont de la ZRV. Et donc, si la ZRV n'est pas entretenue, personne ne le sait, on va dire. Sauf si la police de l'eau a demandé a accepté le déploiement de la ZRV pour résoudre un problème DCE, donc qualité du milieu récepteur, non pas un problème des rues. Donc vérification de la qualité DCE, et à ce moment-là, il y a possibilité d'imposer, est-ce qu'il y a des niveaux de qualité de rejet aussi vérifiés donc, derrière la ZRV, et donc avec un entretien qui permet d'atteindre ces objectifs de qualité. Donc ça, c'est, je pense, les deux freins. Enfin, c'est ce qui a beaucoup expliqué le fait qu'on voit des énervés qui sont de très beaux cloaques dans les années passées. En termes de... Non pas forcément en termes de gestion, mais en termes de conception, aujourd'hui, ben, on se rend compte que le sol pourrait être un élément contributeur important. Faut-il encore savoir dans quelles conditions on peut l'utiliser, on peut l'utiliser à bon escient, on peut l'utiliser sans générer une bombe à retardement. Et ben ça nécessite beaucoup de questions de recherche encore aujourd'hui. Et les énervés se sont développés, donc je vous ai dit, il y a une quinzaine d'années. L'idée des concepteurs, c'était de dire, on a de l'espace autour de la station d'épuration, envoyons-nous de la station d'épuration dans cet espace résiduel. Donc juste en termes d'espace, c'est en mettant quatre végétaux, j'exagère un peu, mais donc le rôle du végétal est relativement secondaire. On se rend compte qu'il faut un minimum de temps de séjour, mais ce n'est pas une surprise, pour qu'il se passe quelque chose. Donc, ça varie entre un jour à 10 jours de temps de séjour, mais ça nécessite des surfaces très importantes, d'autant qu'on veut travailler avec des hauteurs d'eau faibles. Donc, voilà. Et donc, si effectivement on cherche à améliorer le système, c'est en améliorant les connaissances sur le sol.
OK. Merci. J'entends à côté un manque de reconnaissance des énervés, en fait. Dans lequel, si tu dis que les analyses et les performances sont souvent en amont et pas en aval, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance de l'efficacité.
C'est que la réglementation a absolument voulu que les stations d'épuration continuent à fonctionner telles qu'elles le doivent. Donc, l'objectif de qualité, les engagements sont à la malle de la station d'épuration. Par contre, si on veut aller plus loin, et c'est possible, et ça peut se faire, on peut faire une ZRV, mais à ce moment-là, c'est plutôt dans un cadre DCE, c'est pas dans un cadre DRU. Donc, c'est vraiment pour améliorer. C'est pas un cadre qui donne l'objectif de qualité de rejet de la station d'épuration, mais c'est un cadre qui permet d'améliorer les connaissances sur les masses d'eau. Et c'est vrai que il faut absolument que les stations d'épuration continuent à fonctionner. Et la ZRV, ça a été dit en long, en large, à travers, n'est pas un fusible qui permet aux stations d'épuration de dysfonctionner. Parce que ça se voit aussi sur le terrain. Et il y avait une question d'Yves Legat là-dessus. Les stations d'épuration doivent être dimensionnées pour recevoir une partie du réseau pluvial. Lorsqu'elles seront dimensionnées, elles peuvent recevoir un excédent dans les énervés sous réserve que cet excédent soit un excédent réellement défini par les objets, par les bases de dimensionnement de la station d'épuration amont. La ZRV, ce n'est pas la poubelle de la station d'épuration. Non, mais voilà.
En complément, c'est pas en remplacement, c'est en complément des traitements.
C'est sûr que c'est pas un remplacement. Et il faut savoir aussi qu'une ZRV fonctionnera d'autant mieux qu'une station d'épuration amont fonctionne d'autant mieux.
Fabrice, sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à faire un super entretien sur le long terme ?
Je ne sais pas si je suis mieux placé que toi pour répondre à cette question, mais moi, ce qui me semble, c'est que peut-être du point de vue de la recherche, en tout cas, on pourrait s'intéresser un peu plus au comportement sur le long terme de ces ouvrages pour essayer justement de stimuler un petit peu les entretiens indispensables, nécessaires et peut-être ceux qui ne sont pas indispensables sur ce type d'ouvrage. Et puis, peut-être de façon plus large, peut-être se méfier aussi des effets de tendance, de mode qu'on peut avoir parfois sur l'introduction de ces ouvrages multifonctionnels. Et je pense aussi à certains discours qu'on peut avoir du point de vue politique sur le fait de mettre en place ce genre de technique. On peut penser au cours d'école. Je suis un peu provocateur parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on réfléchit à ça et qu'on met ça dans les, les programmes électoraux. Mais il y a les arbres aussi. On parle parfois du rôle des arbres, qui sont aussi en quelque sorte une technique alternative, et pour lesquels les sols urbains ne sont pas toujours prêts à accepter qu'on plante des arbres. Donc il faut aussi leur faire de la place. Donc d'avoir une réflexion peut-être un peu plus large sur ces questions-là. C'est, voilà, si je plante un arbre, est-ce que je serais capable de le maintenir longtemps en vie, et est-ce qu'il aura assez de sol et de nutriments pour qu'il soit bien, bien fonctionnel pendant longtemps. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut pouvoir anticiper. Voilà, quelques éléments.
Ouais, il y a clairement des besoins de suivi, je suis d'accord avec toi. Et Jean-Jacques Herrin, il va dans le même sens aussi sur le fait qu'on manque de connaissances sur ces sols urbains ou ces sous-sols urbains.
Oui, c'est vrai.
Marc, Youssef, vous voulez réagir aussi sur la question ?
Alors, déjà sur les sols et sous-sols urbains, oui, alors surtout que là-dessus, nous, il y a une diversité incroyable, hein, et c'est une très grosse hétérogénéité, avec des sols qui ont souvent été remaniés, etc., remblayés, etc., etc. Donc, c'est une question très complexe. Alors, après, on va dire, les freins et les limites. Avant, il y avait le manque de volonté politique, je l'ai entendu, et c'est vrai qu'avant, c'était le cas. Alors, pour Paris, au contraire, maintenant, c'est plutôt un atout, parce qu'il y a plutôt, au contraire, une forte volonté de basculer sur ce type d'approche. Par contre, là où on va avoir des résistances, c'est plutôt lié au domaine de compétences et d'expertise. C'est-à-dire qu'on a différentes directions, les spécialistes de la voirie, les spécialistes des établissements scolaires, la gestion des établissements scolaires, etc., qui peuvent avoir leur domaine d'expertise, leur pratique, et qui n'ont pas envie que ce soit forcément remis en question avec l'intégration de nouvelles choses, en estimant que les choses sont incompatibles et que… Alors déjà, il y a des questions de langage aussi. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas forcément le même langage que d'autres acteurs qui sont sur des techniques alternatives. Et puis, il y a presque des questions de pouvoir, c'est-à-dire c'est leur domaine, c'est leur responsabilité, et c'est difficile de dire qu'ils vont partager ces prérogatives avec d'autres personnes. Tout va apparaître d'un coup plus compliqué, et ils ne le souhaitent pas forcément. Donc il y a vraiment cette question des différents domaines d'expertise, domaines de compétences. Après, il y a aussi la cohérence avec les pratiques de gestion patrimoniale qui sont beaucoup axées sur le risque, en fait. Ils sont beaucoup axés sur le risque financier, et du coup, les incertitudes et le manque de retour d'expérience qu'on a sur les solutions fondées sur la nature, et quelque part le risque associé à la multiplicité des acteurs, n'est pas forcément compatible avec les pratiques existantes. Et en tout cas, il y a de vrais enjeux là-dessus, quoi. Comment arriver à trouver un langage commun et à faire un calcul des risques qui soit intégré. C'est quand même un sacré défi de mettre tous ces domaines de compétences ensemble avec une clarté sur les périmètres des uns et des autres.
On est typiquement dans les problèmes de cohabitation de technologie et de compétences aussi. Ouais. Ouais.
Oui.
Cathy, je crois que tu voulais poser une question. Et après, j'ai vu qu'il y a des questions aussi qui passent sur la messagerie. Peut-être que Yves, tu pourras prendre le relais sur une question.
Oui. En ce qui me concerne, je voulais revenir sur un point que tu as évoqué, Frédéric, ce matin. C'est comment financer ou partager les coûts avec le côté coût d'exploitation et coût d'investissement. Et on comprend bien que la gestion patrimoniale peut faire basculer d'un côté ou de l'autre, et que ce n'est pas toujours les mêmes qui vont financer l'un ou l'autre. Et donc, je rajouterais par rapport à ce côté comment financer, c'est déjà… il faut s'intéresser à essayer de connaître ses coûts. Donc, juste pour vous faire part d'une étude qui est en cours où on travaille sur le côté multimétier des coûts d'entretien des techniques alternatives, donc dans une convention avec l'OFB, voilà, qui apportera des éléments là-dessus. Et que dans cette convention, il y a aussi une partie qui est gérée par Bénédicte Rulot à Bordeaux, plus sur le côté analyse économique des préférences et bénéfices pour les usagers, et que ça rentre dans le cadre du projet GEMU, qu'on a fait ça avec l'Eurométropole de Strasbourg et la métropole du Grand Lyon, et qu'on va continuer et qu'on va certainement contacter d'autres collectivités sur le côté analyse de coûts. Alors, le point sur lequel j'aimerais bien vous interroger, alors peut-être tous les… Fabrice, je partirais plutôt sur Antoine, Catherine et puis Marc. C'est justement, je veux dire, en technique alternative, en fait, on se retrouve avec un financement, il n'y a pas de financement propre. On a le budget assainissement, on a le budget général, on a le budget éventuellement de la commune concernée, de la structure concernée. Donc, il y a vraiment, tout se mélange un petit peu, il y a lié au côté multimétier. Et donc, sur vos infrastructures propres, comment est-ce que vous voyez des solutions ou comment ça se passe actuellement sur le côté financement des investissements et financement de l'entretien? Alors peut-être Catherine.
Je veux bien. Enfin, c'est presque facile dans la mesure où donc la ZRV elle est clairement liée à la station d'épuration. Les aménagements, les investissements sont lorsque les objectifs de qualité sont clairement affichés, épuration, sont intégrés dans le dossier de la station d'épuration, et donc sont de ce fait complétés, enfin le financement, l'investissement est financé par les agences de l'eau, et le coût d'entretien et l'entretien est en lien avec la station d'épuration et est pris sur le prix de l'eau. Donc on est vraiment dans un fonctionnement assainissement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les agences ont contribué à ce qu'on travaille sur ce sujet-là, puisque l'investissement vient de chez eux. Et donc, si on crée une ZRV avec une priorité autre que l'assainissement, je pense que les agences et la partie épuration pourraient se désengager pour le financement de ces ouvrages à l'investissement. Et donc, ça pourrait changer les choses.
Okay. Et si on revient un petit peu sur les anciennes structures type lagune, les choses qui existent encore un peu, filtre planté de roseau, où c'était communal et que ça évolue quand même, comment tu vois les choses là-dessus? Est-ce que se sont mis en place des choses qui permettent de financer ou est-ce que ça vit au mieux?
Ah ben là, si tu veux, là, c'est comme une station d'épuration. Donc ces ouvrages-là, c'est une station d'épuration. Donc, tu as les mêmes règles, que ce soit une boue activée, un lit bactérien, un disque biologique, une lagune ou un filtre planté, tu as les mêmes règles et donc c'est dans le budget assainissement de la collectivité.
Ok, merci Catherine. Je passerai bien la parole à Antoine. Et du coup, je poserai bien cette question de comment on fait pour financer quand on n'a pas mis en place de taxe GEMAPI.
Ben, bonne question.
Alors déjà, peut-être que la première question serait, est-ce que dans le périmètre que tu connais, est-ce qu'il y a beaucoup de taxes GEMAPI? Je veux dire, dans celui que moi je connais,
la taxe GEMAPI, maintenant, de toute façon, elle est obligatoire depuis 2018. Donc, elle apparaît à minima sur toutes les fiches d'impôt. Elle peut apparaître à 0 euro. Hein. Donc, elle est forcément visible. Ensuite, c'est les collectivités qui ont déterminé les montants qu'ils souhaitent appliquer. Alors le problème c'est de savoir si la compétence a réellement été prise, c'est-à-dire que elle a été créée obligatoire depuis 2018, mais est-ce que les collectivités s'en sont saisies, c'est-à-dire que nous par exemple au niveau du syndicat elle ne nous est pas encore transférée, on l'assure depuis une dizaine d'années, mais elle ne nous est pas transférée par les communautés de communes adhérentes au syndicat parce que ça demande aux collectivités de uniformiser leur façon de faire. Nous, on ne peut pas gérer une partie du bassin versant sur la vision d'une collectivité et une autre partie d'une autre manière. Donc déjà, ce qui est très difficile, c'est que l'ensemble des collectivités doivent s'organiser entre elles pour avoir la même levée de fonds, ou en tout cas qui permettent au syndicat de gérer de la même manière partout son bassin. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est de lever des fonds. Ensuite, c'est de savoir si les travaux et les ouvrages qu'on construit relèvent ou non de la GEMAPI. C'est-à-dire qu'un ouvrage qui protège contre des inondations de personnes, c'est effectivement un ouvrage gémapien, mais un ouvrage de protection contre des érosions n'est pas forcément dépendant de la GEMAPI. Donc, il peut relever de la compétence d'une autre collectivité. Parce que c'est une autre compétence, ce n'est plus la GEMAPI, mais ça peut être autre chose. Donc, ce qui est compliqué, c'est d'abord de définir, nous, le maître d'ouvrage. Est-ce que c'est GEMAPI, pas GEMAPI? Si c'est le cas, oui, c'est simple. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas simple. Et ensuite, les coûts d'investissement, en général, si on utilise des solutions en génie végétal ou autre, on peut obtenir des financements de l'agence de l'eau sous certains critères. Et puis, d'autres partenaires, si on a des enjeux, par exemple, au départemental ou autre, on peut avoir d'autres partenaires de collectivités. Je pense que ça reste encore, toujours malgré tout, plus compliqué de trouver des financements sur les coûts de fonctionnement que sur les coûts d'investissement. Les coûts d'investissement, parfois, sont trop élevés et la part d'autofinancement peut être bloquante. Mais si on y arrive, derrière, on a toujours la problématique du coût de fonctionnement parce que plus personne ne finance ça. Les partenaires financiers des collectivités locales se sont tous désengagés des coûts de fonctionnement. L'agence de l'eau suit encore un peu, mais sous réserve de contrepartie dans d'autres domaines, au niveau de l'entretien de la végétation, par exemple, on peut, mais à condition de mettre d'autres choses en place, et ça tend à disparaître. Donc, on a tendance à faire assumer aux collectivités locales l'ensemble des coûts d'entretien, d'opérations, par exemple, d'ouvrages de protection contre les inondations. Donc, c'est là la grande difficulté, c'est que je pense que les moyens liés au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages ne seront pas, en tout cas dans les zones rurales, ne seront pas suffisants. Donc, ça ne sera pas fait. Donc, on risque de se retrouver avec des ouvrages qui vont largement se détériorer. C'est le cas de digues qui sont en génie civil. On a énormément d'ouvrages qui sont totalement déstructurés, qui s'écroulent, parce qu'il n'y a pas l'entretien qu'il faut.
Et je rajouterais encore un peu dans ce sens-là, c'est que de dire, effectivement, souvent, on pense à l'investissement, on cherche de l'aide pour l'investissement, et qu'on ne pense pas toujours à comment on va entretenir, ça vient au fur et à mesure. Et alors, le fond, ceux qui sont concernés, je veux dire, pour les techniques alternatives, ça a été un peu ça aussi, le service assainissement a commencé, puis au bout d'un moment, ils se sont dit, on ne peut plus faire tout seul, il faut voir comment gérer avec les communes, comment gérer avec les espaces verts, et puis il y a des solutions diverses et variées. Mais il y a aussi le fait que si on se place vraiment côté gestion patrimoniale, je veux dire, si l'investissement de départ a été subventionné ou si l'investissement de départ a été fait par un lotisseur privé, je veux dire, se posera la question de comment renouveler et que en GEMAPI, je ne sais pas, sur le côté GEPU, en fait, j'ai l'impression que la notion d'amortissement n'existe pas trop, enfin, elle est un peu oubliée. J'ai l'exemple du SIAGE, qui est un syndicat où il y a la GEMAPI, où il y a de l'assainissement surtout, où ils ont fait ils ont des durées d'amortissement sur des noues et sur des ouvrages, sur des bassins en eau. Mais il me semble que même sur la voirie, l'amortissement n'est pas obligatoire. Donc, on est vraiment dans des situations où, en plus, quand se posera vraiment la question de… Alors, peut-être que la notion de renouvellement n'est pas la même que celle qu'on a sur les tuyaux, mais s'il faut vraiment refaire une structure et qu'il faut que ça soit de l'investissement, il n'y aura pas dans les budgets non plus ce qu'il faudra pour mettre tout ça en place. Je ne sais pas si côté Marc et Youssef, vous avez une réaction.
Juste avant, c'est très classique le fait que l'investissement il soit priorisé sur l'exploitation. C'est ce qu'on pourrait simplifier en disant que les élus préfèrent couper des rubans.
Oui, on est d'accord.
Pardon Cathy, est-ce que tu peux juste repréciser, pardon, j'ai perdu un peu le fil.
Ben, disons que en fait ma question de départ c'était comment ça se passe au niveau du financement. Je veux dire je ne sais pas si sur Paris il y a une taxe GEMAPI. Je sais qu'il n'y a pas de taxe eau pluviale et donc de par rapport à l'analyse aussi bien historique que sur le contexte actuel, comment vous voyez un peu les choses pour que ça puisse continuer à tourner, à être entretenu. Et puis que si se posait la question de renouveler complètement un équipement, d'où pourrait venir l'argent? Quel serait, comment ça se fait avec toutes les histoires de millefeuille de compétences qui… Pour moi, j'ai pu, c'est encore pas très clair. Hein, ça se situe plutôt au côté assainissement, mais pas partout. Parfois, c'est presque le côté GEMAPI. Donc, je ne sais pas, sur votre contexte, quels sont les éléments que vous pouvez nous donner?
Alors, concernant la GEMAPI, c'est assez intéressant parce que c'est la métropole, en fait, qui a récupéré la compétence GEMAPI, donc la métropole du Grand Paris, qui donc englobe à la fois la ville de Paris et les communes des départements de Petite Couronne. Et Alors là, il se pose notamment tout un tas de questions. Alors, par rapport à la gestion du risque inondation, c'est surtout la question des endiguements qui se pose, où on a tout un tas d'endiguements, petites couronnes notamment, qui ne sont pas dimensionnées pour une crue centennale, mais pour une crue 30 ou 50-nale. Et il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions en suspens là-dessus actuellement. Pour ce qui est des cours d'école Oasis, alors l'objectif, c'est que ce soit une opération. Alors, je sais qu'il y a un fonds FEDER, c'est adossé à un fonds FEDER qui cofinance la mise en œuvre d'une grande partie des cours, peut-être pas toutes, mais une grande partie. Ensuite, dans la démarche résilience, dans le cadre duquel ont été élaborées la démarche Oasis, c'était donc fait avec un Chief Resilient Officer ou haut commissaire à la résilience qui était directement sous la responsabilité du secrétariat général de la ville et qui avait donc à la fois qui avait un objectif de proposer des opérations pour lesquelles la ville soit forcément bénéficiaire. Et du coup, qui réduisent des budgets d'une façon ou d'une autre, qui est à la fois un co-bénéfice, qui est des co-bénéfices par rapport au risque, par rapport à des considérations sociales, par rapport à la gestion de l'eau, mais également qui a un intérêt ou au moins un minimum un prix coûtant d'un point de vue financier. Alors ça, après, je ne sais pas exactement comment est-ce que les cours d'école, quel est le bilan des cours d'école vis-à-vis de cette question-là in fine, mais en tout cas, c'était une condition initiale au moment de l'élaboration du projet via la concertation de différents acteurs. Alors, Youssef m'a rejoint. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur les financements après projet, c'est-à-dire sur le financement des projets dans le temps.
Au pluvial, essentiellement, on va dire.
Oui, ce qui a permis à cette opération, comme toutes les opérations innovantes, de se lancer, c'est le fonds Urban Innovation Action Urbaine Innovante. Alors derrière, le bilan que fait l'Europe par rapport à ça, qu'il y a pas mal d'actions qui s'arrêtent quand ce financement s'arrête. Alors la ville de Paris est méfiante par rapport à ce genre de choses. C'est pour ça qu'elle cherche des partenariats. J'imagine que Marc vous a parlé de la volonté de la métropole de diffuser plutôt ses pratiques sur d'autres écoles de la métropole du Grand Paris et pas rester sur Paris. Mais il y a un surcoût que pour le moment, la ville de Paris s'engage à le prendre dans la suite des opérations. Mais il n'y a pas le coût de maintenance, il y a le coût juste de réalisation. Alors, est-ce que c'est une opération qui sera pérenne? Franchement, on ne peut pas vous le dire. Et surtout que les cours Oasis, les premières opérations pilotes, il y a de mémoire, juste avant le confinement, il y a deux écoles qui sont vraiment terminées et les autres sont en cours de finalisation. Et le projet, il a encore un an. Il se termine dans un an, si je ne me trompe pas, avec les 3 mois supplémentaires de Covid.
Je pense qu'il y en a plus maintenant. Je pense qu'il y en a.
C'est intéressant, effectivement. Je veux dire, ça veut dire que c'est prévu un certain temps et puis qu'on se pose pas tout à. On s'est peut-être pas encore posé la question de. Il y aura une histoire de rétrocession ou de choses comme ça. C'est un peu ce qu'on retrouve sur les écoquartiers où c'est construit par des privés, par des aménageurs et que au bout d'un moment, la partie technique alternative repasse à la collectivité. Et c'est là que peuvent se poser des questions de justement comment financer. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je veux dire, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je repasse la parole à Yves, si tu veux fermer sur cette session.
Oui, donc je remercie tous les quatre intervenants et l'ensemble des participants. On a eu des échanges très riches et très intéressants. Personnellement, moi, j'ai appris plein de choses. Et voilà, encore merci, bonne soirée à tout le monde. Je ne sais pas si Corinne voulait rajouter un mot de clôture.
Oui, très rapidement, ouais, effectivement, oh. Aussi, on va clôturer le séminaire là. Je renouvelle du comité scientifique tous nos remerciements pour les présentateurs qui ont fait des interventions très intéressantes, qui ont vraiment apporté des éléments après très pertinents sur les questions qui étaient posées. Merci aussi aux responsables des sessions pour leur animation, pour le relais des questions et puis la synthèse des questions qui arrivent dans le chat les unes derrière les autres. Et puis il faut faire une petite synthèse pour poser les bonnes questions. Et puis merci bien sûr à la salle virtuelle, aux participants qui ont animé le débat par leurs commentaires, leurs questions et aussi par plein d'éléments d'information. Hein. Il y a encore des éléments qui ont été proposés, soit des sites internet, soit des rapports de projet, par exemple, hein. différents documents. Donc, on essaiera de compiler tout ça dans un document. Alors, je ne peux pas vous donner actuellement la forme courant, ce qu'on pourrait appeler les axes de ce séminaire. Je vous l'ai dit au début, hier après-midi, il y aura à minima les présentations. Je pense qu'il y aura aussi tous ces éléments d'information. On essaiera de faire des synthèses, mais on vous tiendra informés sur la suite de ces actes. Et puis, bah, écoutez, moi, j'étais très heureuse que ce séminaire se tienne, malgré les conditions à distance. Et puis, bah, maintenant, je pense qu'on sera tous très heureux de pouvoir bientôt se retrouver tous ensemble dans une salle pour tenir ce type de séminaire et partager des moments conviviaux. Voilà, ben merci à tous et bonne continuation, à bientôt.